Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Michel Leduc et Emmanuel Huysmans-Perrin. Michel Leduc, Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader, bonjour.
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 Michel Leduc, vous êtes physicienne, vous travaillez dans le domaine de la physique atomique, vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, au laboratoire Kastler-Brossel de l'École normale supérieure. Vous n'avez pas cessé de médiatiser les sciences et notamment la physique. Et vous êtes directrice de collection, de la collection Savoir Actuel, coéditée avec le CNRS, et de la collection Introduction à, éditée par EDP Sciences. Vous avez choisi aujourd'hui de parler du numéro de Raison présente intitulé « L'innovation, une injonction » avec Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader.
Merci beaucoup Emmanuel. J'ai le plaisir d'introduire Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader. Marie-Françoise, vous êtes biologiste, vous avez fait de l'enseignement et du journalisme, vous avez dirigé la communication de grandes institutions de recherche, vous êtes aussi membre de l'Académie d'agriculture, vous avez fondé puis dirigé pendant 10 ans l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, vous avez donc été confrontée à de nombreux débats avec la société. Aujourd'hui, nous vous interrogeons à l'occasion du numéro 206 de la revue Raison présente de l'Union rationaliste qui est à paraître, dont vous avez coordonné le dossier intitulé « L'innovation, une injonction ». Première question, Marie-Françoise, pourriez-vous définir plus précisément le terme d'innovation ? Est-ce qu'il fait référence à la notion de découverte ou plutôt à la création de biens industriels ? Le sens est-il le même pour tous les pays ? Pouvez-vous nous parler de votre titre ?
Merci Michel. L'innovation est omniprésente et c'est d'une manière générique l'émergence d'une nouveauté pour des fonctions ou des usages. L'OCDE en donne une définition en 2005 qui montre que ce concept peut se décliner dans les domaines technologiques, économiques, managériales, culturels et au-delà des entreprises, dans les institutions et les territoires ou encore les modes de vie. Et en fait, cette capacité d'innovation dépend aussi des changements de ce qu'on appelle le système technique, au sens de l'historien Bertrand Gilles, c'est-à-dire la façon dont différents domaines scientifiques interagissent entre eux. Aujourd'hui, ce sont les systèmes d'information, les sciences du vivant, les matériaux, l'énergie. Et ces synergies entre ces domaines modifient le rapport des sciences et des techniques à la société. Alors, dans ce dossier, bien évidemment, nous avons fait appel à un grand connaisseur de l'innovation qui est Didier Roux, qui a eu la chaire du Collège de France sur l'innovation de Liliane Bettencourt en 2017. Et qui montre bien les relations entre recherche fondamentale, découverte, qui se caractérise par la découverte, l'invention, qui se caractérise dans les laboratoires par les dispositifs techniques, et l'innovation, qui se traduit par des usages et des nouveaux marchés. Sur la confrontation de l'invention au marché. Et il montre ainsi, par exemple, que le téléphone portable que nous utilisons tous les jours est le fruit de 15 prix Nobel scientifiques. Et donc, la localisation par les GPS est aussi issue des travaux d'Einstein sur la relativité restreinte et générale. Et donc, finalement, quels sont les liens qui existent entre ces trois processus ? Et en fait, il y a les tenants de tout pour la recherche fondamentale, donc en tant que source de biens communs, de connaissances, et puis qui ne s'épuisent pas, je le rappelle, quand on la partage. Et puis, de tout pour l'innovation, qui sont orientés sur la production de biens et de nouveaux usages. Et donc, en fait, la relation n'est absolument pas linéaire. On ne passe pas de la recherche fondamentale par l'invention à l'innovation. Par contre, les chemins sont parallèles, interagissent tout au long du temps, tout au long des espaces, et c'est cette vision connectée des différentes démarches qui est importante. Et je rajouterai juste, il y a un texte de Matthias Fink, grand innovateur, créateur de 7 start-up, professeur à l'ESPCI, qui montre combien la dimension culturelle et la façon dont l'innovation est portée par les acteurs dépend de facteurs culturels. Il s'appuie sur son expérience de la Chine, des États-Unis et bien évidemment de l'Europe et de la France.
Oui, ceci est très clair. Je voudrais tout de même vous poser la question sur votre titre, parce que je le trouve qu'il intrigue. Vous parlez d'injonction. C'est injonction de qui? Injonction à qui? Les chercheurs savent bien que leurs demandes de financement doivent comporter un volet sur l'innovation, sur laquelle doit déboucher leurs travaux. S'il n'y a pas ce volet, ils risquent fort de ne pas avoir leur financement. Et souvent, ils en sont un peu marrés. Vous avez parlé de la recherche fondamentale, qui n'a pas toujours besoin de se justifier par l'innovation. Mais c'est tout de même la mode. Alors, qu'en pensez-vous ?
Alors, cette injonction... Elle vient de qui ? Elle est économique, politique et territoriale. Très clairement, c'est Schumpeter qui a montré que le progrès technique est à l'origine d'une croissance de long terme. Et les travaux plus récents d'un économiste qui lui aussi est au Collège de France, Philippe Aguillon, montrent que la connaissance est à l'origine d'une croissance durable parce que aussi elle suscite une utilisation rationnelle des ressources finies, la planète. Et donc, c'est ainsi que le concept de société de la connaissance a émergé dans les années 90, qui est un peu différent du fait de ces travaux aujourd'hui. Et donc, les politiques publiques ont repris cette injonction parce que il n'y a pas de développement sans innovation aujourd'hui. Et donc, soit cette innovation il y a deux papiers dans le dossier sur le Japon, sur ce qui se passe en Asie, sur ce qui se passe en Europe, en France, à travers un exemple précis, la filière micro et nano électronique. Et donc, c'est l'injonction innovation peut se faire de bas en haut, de l'État, comme nous sommes habitués à des visions colbertistes en Europe et chez nous en France, ou de haut en bas, à partir des territoires. Et les territoires aussi sont soumis peut-être même à cette injonction d'innovation en mobilisant c'est un autre concept qui intervient, c'est celui du territoire intelligent qui a été développé par un autre économiste, Dominique Forêt, et qui est repris par la Commission européenne aujourd'hui. Donc que le territoire doit se spécialiser sur des formes d'innovation qui lui sont propres. Alors je dirais qu'à ces injonctions, qui elle concerne, on vient de voir le territoire, mais en premier lieu, ce sont les scientifiques. Et là, il y a un autre papier dans le dossier de Yves Bréchet qui évoque ce que vous dites, à savoir, aujourd'hui, pas un axe de financement de la recherche ne se fait sans avoir une dimension innovation. Or, ceci peut avoir des effets pervers, parce que, comme nous l'avons vu, il y a le chemin de la recherche de la connaissance fondamentale et le chemin de l'innovation qui doivent se connecter, mais ils ne doivent pas dépendre complètement l'un de l'autre. Et donc, Yves Bréchet développe dans ce papier les écueils auxquels nous allons risquer de nous heurter si nous continuons sur cette lancée.
Et je pense qu'Yves Bréchet a parfaitement raison et les chercheurs lui donnent aussi raison. Et je voudrais vous poser une question un petit peu différente parce que quand on pense innovation, on pense industrie, mais... Est-ce qu'il n'y a pas une dimension sociétale à l'innovation ? Pour moi, elle implique un certain nombre d'acteurs responsables qui sont les politiques, les chercheurs, les ingénieurs, les entrepreneurs, les experts. Mais cette énumération n'oublie-t-elle pas la société civile, ses attentes et ses avis ?
Alors, vous avez raison, elle ne l'oublie pas. Non, elle ne l'oublie pas. Mais parce que d'une part... Comme je l'ai dit au début dans les définitions, l'innovation est tournée vers les services, qui dit service dit société, donc l'interaction est directe là. Mais c'est au niveau de la production de cette innovation sociétale que les choses ont beaucoup évolué, et en particulier avec la participation justement de nos concitoyens à certains processus d'innovation. Et dans le dossier ici, c'est l'article de Martine Bingener qui l'évoque dans un domaine bien particulier qui est pionnier, emblématique justement de cette construction sociétale de l'innovation qui est la santé. Et comme on le sait, le progrès médical a été majeur depuis les années 30 au 20e siècle ce que l'on connaît sur la mortalité infantile, les maladies infectieuses, l'espérance de vie. Et aujourd'hui, un certain nombre de personnes sont conduites à vivre avec leur handicap ou leur maladie et doivent acquérir savoir-faire pour gérer leur maladie et se maintenir dans la vie sociale. Et donc, cette dynamique s'est concrétisée dans les années 70-80, en particulier avec la pandémie du sida et aussi les maladies génétiques rares avec la création d'associations que le TRT5 et puis l'AFM qui ont conduit à un dialogue renouvelé et à une coproduction aujourd'hui d'un certain nombre de décisions relatives aux usages de l'innovation, bien sûr, à la prise en compte de leur expérience, de leur savoir-faire, mais également aussi à une participation à des choix scientifiques et technologiques. Et c'est ainsi que l'INSERM a donné l'exemple en créant dans son sein un groupe permanent de réflexion avec les associations de malades et qui est également une mission qui est chargée d'être plus opérationnelle sur ces dimensions-là. Donc, par ailleurs, dans le dossier, il y a aussi la recension d'un ouvrage d'une jeune ingénieure qui parle aussi de cette dimension sociétale de l'innovation qui est au cœur, aujourd'hui, du devenir de l'innovation.
Oui, c'est Mélanie Marcel qui a fondé Socience. Justement, puisqu'on est dans les questions de débat public et de société, je voudrais vous poser la question, une question un peu plus juridique qui est traitée dans la revue. Dans certains débats publics, on oppose le principe juridique de précaution, le principe de précaution qui est dans la Constitution, au principe d'innovation, qui n'est pas dans la Constitution. Mais on entend souvent ça. Alors, cette opposition vous paraît-elle pertinente ? Parce que dans votre dossier, vous expliquez avec vos auteurs que le principe de précaution devrait régler un équilibre délicat entre l'innovation et la conservation. Pouvez-vous commenter cette tension entre le passé et le futur ?
Alors, je me fais l'écho, là, de l'article, d'un entretien que nous avons eu avec une juriste de droit international, Mireille Delmas-Marty, qui est professeure émérite au Collège de France. Et d'entrée de jeu, qui a beaucoup écrit sur ces questions-là. Et donc, elle nous dit, c'est un principe mal aimé parce que mal nommé. Et donc, c'est un principe qui devrait être appelé principe d'anticipation et qui ne cesse de se développer aujourd'hui dans le domaine de la santé, de l'environnement, mais aussi des technologies, des sciences de l'information comme des biotechnologies, et qui pose la question, sur le fond, est-ce que tout ce qui est techniquement possible est-il juridiquement permis ? Et qui pose la question, faut-il, pour anticiper des risques potentiels, limiter l'innovation et élargir le droit de la responsabilité au nom de la précaution ? Donc, jusqu'où anticiper ? Et c'est vrai que dans une société qui est marquée par le rêve d'un monde prévisible, par l'utopie du risque zéro, cette question est redoutable et on assiste à une inflation normative. Et donc, elle développe cette notion que le principe de précaution est au centre du paradoxe de l'anthropocène, c'est-à-dire la capacité que nous avons à créer un horizon extraordinaire et en même temps à démolir notre planète. Et donc, en tant que régulateur entre deux esprits de ce qu'elle appelle des vents, l'esprit d'innovation et l'esprit de conservation. Et donc, c'est un régulateur, la précaution, qui par ajustement régulier peut rendre possible un équilibre dynamique. Parce que nous savons que si l'innovation cesse, la mondialisation sera paralysée et que si l'innovation sans souci de conservation peut conduire à un effondrement de la planète. Donc ce principe remplace très justement ce qu'elle dit, le « ou » qui oppose par le « et » qui compose et permettrait une stabilisation de ce couple sans le fixer. Et il occulte la relation binaire qui permet de tout faire, de tout accepter la technique quand elle est disponible ou au contraire de tout refuser s'il y a le moindre risque. Donc se pose la redoutable question de l'évaluation des risques d'une part, qui sont liés entre les mains des experts, bien évidemment, qui sont scientifiques, qui est le calcul de probabilité, mais aussi de l'acceptabilité qui, elle, dépend de la société, que c'est la tolérance au risque, et qui rend le juge dans une situation extrêmement délicate pour arbitrer entre l'un et l'autre. Et ceci explique aussi qu'aujourd'hui, l'acceptabilité, la notion d'acceptabilité renvoie aussi au contexte local. Les innovations ne sont pas perçues, ne sont pas acceptées de la même manière dans le monde. Ceci fait écho aussi au papier de Matthias Fink.
Oui, merci beaucoup. Ceci est quand même un problème très compliqué. Bon, je voudrais vous pour terminer, vous poser une question un peu plus générale. Marie-Françoise, il semblerait que la notion d'innovation va avec celle de progrès. Pourtant, on parle moins de progrès aujourd'hui, on y croit peut-être moins, avec la conscience croissante de tous les dangers qui menacent la planète. Par contre, les propos sur l'innovation sont envahissants. Qu'en pensez-vous ?
Je me suis tournée vers un philosophe et philologue, Heinz Wissmann, pour réfléchir à cette question. Et effectivement, il évoque une tension qui, entre des façons différentes de penser le temps autour des questions de progrès et d'innovation. La première, ces trois dimensions, la première est celle qui existait dans les sociétés anciennes, traditionnelles, où le temps, était, le progrès, l'amélioration du quotidien était considéré comme devant toujours revenir à un état de perfection ancienne, qui, et c'est ce que l'on a appelé le mythe de l'âge d'or, donc toutes les sages avaient le pouvoir auprès des décideurs et il y avait une sagesse qui était transmise et qui, mais le temps était tourné vers le passé. La seconde vision, c'est celle de la société moderne. Au XVe siècle, l'abandon du géocentrisme, les grandes découvertes, l'imprimerie et puis la publication par Thomas More en 1516 de Utopia ont conduit à une refonte de cette notion de progrès qui n'existait pas auparavant. Et donc le progrès, la notion d'un progrès linéaire inspiré des traditions juives et chrétiennes du reste a émergé et l'innovation était au service de ce progrès. C'est ce que nous avons vécu avec le siècle des Lumières et encore très récemment. Et puis au XIXe siècle est apparue une dernière vision du monde totalement centrée sur le temps présent. C'est celle qui est apparue aussi avec la question de la mode, de l'émergence des dandys qui, et de Baudelaire, les fleurs du mal, qui avait une vision de l'innovation dans l'instant. Il valorisait la création, le désir, et donc cette vision-là, c'est celle que nous avons aujourd'hui, qui nous semble être aujourd'hui. Mais ce qui est très important de voir dans cet article, c'est qu'en fait, ces trois visions coexistent toujours comme une sorte de tectonique des plaques, je reprends l'expression d'Heinz Wissmann, et sont à l'origine d'un certain nombre de débats.
Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader, Michel Leduc, je vous remercie. Je renvoie donc au numéro 206 de Raison Présente, l'innovation une injonction, et je remercie Philippe Morcher et Dany Journeau qui ont rendu possible cette émission, et je vous dis au mois prochain.